Emmanuel Kant, prolégomène à toute métaphysique future, suite de la deuxième partie. Deuxième partie, comment la physique pure est-elle possible? Chapitre 24. Des jugements considérés simplement, comme la condition de la liaison de représentation donnée, sont des règles. Ces règles, si elles donnent la liaison comme nécessaire, sont des règles a priori, et, considérées comme n'étant pas subordonnées à d'autres, elles sont des principes. Et comme, par rapport à la possibilité de toute expérience, si l'on n'y voit que la forme de la pensée, il n'y a pas de condition des jugements d'expérience au-dessus de celles qui soumettent les phénomènes, d'après la forme diverse de leur intuition, aux notions intellectuelles pures, qui rendent objectivement valable le jugement empirique. Ces notions sont donc des principes a priori de l'expérience possible. Ces principes d'une expérience possible sont donc en même temps des lois universelles de la nature qui peuvent être connues a priori. Et alors se trouve résolu le problème énoncé par notre seconde et présente question. Comment une physique pure est-elle possible? Car on y trouve tout l'élément systématique voulu par la forme d'une science. Puisqu'il n'y a pas d'autres conditions possibles que les conditions formelles de tous les jugements en général. Par conséquent, pas d'autres règles que celles qui sont données par la logique. Ces règles contiennent un système logique. Or, les notions qui s'y trouvent fondées, qui contiennent les notions a priori de tous les jugements synthétiques et nécessaires, constituent par là même un système naturel transcendantal. Tandis que les principes, au moyen desquels tous les phénomènes sont subsumés à ces notions, constituent un système naturel physiologique, c'est-à-dire un système qui précède toute connaissance empirique de la nature, qui la rend d'abord possible et peut être appelée par cette raison la science propre, universelle et pure de la nature. Chapitre 25. Note. Ces trois paragraphes seront difficilement compris si l'on n'a pas présent à l'esprit ce qui est dit des principes dans la critique. Mais ils peuvent servir à mieux en faire comprendre ce qu'il y a de général et à faire porter l'attention sur les points essentiels. Fin de la note, reprise du texte. Le premier de ces principes physiologiques subsume tous les phénomènes, comme intuition dans l'espace et le temps, à la notion de quantité et devient ainsi un principe de l'application de la mathématique à l'expérience. Le deuxième ne subsume pas précisément ce qu'il y a proprement d'empirique, la sensation, qui indique le réel des intuitions, à la notion de quantité. Parce que la sensation n'est pas une intuition qui contienne l'espace ou le temps, quoiqu'elle y suppose l'objet qui lui correspond. Mais il y a entre une réalité, représentation sensitive, et zéro, c'est-à-dire le défaut absolu d'intuition dans le temps, une différence qui a une quantité. Puisqu'entre tout degré donné de lumière et les ténèbres, entre tout degré de chaleur et le froid absolu, tout degré de pesanteur et de légèreté absolue, tout degré de réplétion de l'espace et de vide absolu, se conçoivent toujours des degrés moindres, comme il peut toujours y en avoir de plus petits entre une conscience et la parfaite inconscience. Obscurité psychologique. ce qui fait qu'aucune perception possible ne prouve un défaut absolu. Aucune obscurité psychologique, par exemple, qui ne puisse être regardée comme une conscience qui soit dépassée par une autre plus forte, et ainsi dans tous les cas de la sensation. De sorte que l'entendement peut anticiper jusqu'à des sensations qui constituent la qualité propre des représentations empiriques, des phénomènes. À l'aide du principe que toutes, par conséquent, le réel de tout phénomène, ont des degrés. C'est là la seconde application de la mathématique à la science de la nature, à la physique. Chapitre 26. Quant au rapport des phénomènes, et même en ce qui regarde seulement leur existence, la détermination en est dynamique et non mathématique, et ne peut jamais valoir objectivement ou convenir pour une expérience si elle n'est pas soumise à des principes a priori qui rendent possible à cet égard la connaissance expérimentale. Des phénomènes doivent donc être subsumés à la notion de substance, qui est le principe de toute détermination de l'existence, comme notion de la chose même. Ou s'il y a succession entre les phénomènes, c'est-à-dire événements, à la notion d'un effet par rapport à une cause. Ou, si le simultané doit être connu objectivement, c'est-à-dire par un jugement expérimental, à la notion de communauté, réciprocité. De cette manière, des principes a priori servent de base à des jugements d'une valeur objective, quoique empirique, c'est-à-dire à la possibilité de l'expérience, en tant qu'elle doit relier les objets quant à l'existence dans la nature. Ces principes sont les lois naturelles propres qui peuvent s'appeler dynamiques. Enfin, au jugement d'expérience appartient aussi, non pas tant la connaissance de l'accord et de la liaison des phénomènes entre eux dans l'expérience, que leur rapport à une expérience en général, ce qui comprend ou l'enchaînement avec le matériel des sens et de la perception, ou les deux réunis en une notion. Par conséquent, possibilité, réalité et nécessité suivant des lois naturelles universelles. De là la possibilité de la méthodologie, distinction de la vérité et des hypothèses, ainsi que des bornes légitimes de ces dernières. Chapitre 27. Quoique la troisième table des principes, tirée de la nature de l'entendement même, suivant une méthode critique, montre en soi une perfection supérieure à toute autre qu'on ait jamais tentée, ou qui puisse l'être dogmatiquement sur les choses mêmes, en ce qu'elle présente toutes les propositions fondamentales d'un caractère synthétique a priori et d'après un seul principe, celui de la faculté de juger en général, faculté qui constitue l'essence de l'expérience au regard de l'entendement, en sorte qu'on peut être assuré qu'il n'y a pas d'autre proposition de ce genre, satisfaction que la méthode dogmatique ne peut jamais procurer. Ce n'est pas là, cependant, son plus grand mérite, tant s'en faut. Il faut faire attention à l'argument qui établit, a priori, la possibilité de cette expérience et ramène en même temps tous ses principes à une condition qu'il ne doit jamais être perdu de vue, à moins d'être mal entendu et étendu dans l'usage au-delà du sens primitif que l'entendement veut y donner, à savoir qu'ils ne contiennent que les conditions de l'expérience possible en général, comme soumises à des lois a priori. Je ne dis pas que des choses en soi contiennent une grandeur, que leur réalité est un degré. Leur existence, une liaison des accidents en une substance, etc. Car personne ne peut le prouver. Parce qu'une pareille synthèse par simple notion, où tout rapport à une intuition sensible d'une part, et toute liaison d'une semblable intuition en une expérience possible d'autre part, font défaut, est absolument impossible. La limitation essentielle des notions est donc dans ce principe que toute chose, comme objet de l'expérience seulement, sont nécessairement soumises aux notions ci-dessus. De là, une autre preuve spécifiquement propre, à savoir que ces principes ne se rapportent pas précisément au phénomène et à leur rapport, mais à la possibilité de l'expérience, dont les phénomènes constituent seulement la matière et non la forme, c'est-à-dire à des propositions synthétiques d'une valeur objective et universelle. En quoi des jugements d'expérience se distinguent précisément des simples jugements de perception? Ce qui a lieu par le double fait que les phénomènes, comme simple intuition, qui occupe une portion d'espace et de temps, sont soumis à la notion de quantité qui en relie synthétiquement le divers suivant des règles a priori, et que la perception contenant, outre l'intuition, une sensation entre laquelle est zéro, ou sa complète extinction, et la transition par amoindrissement existant toujours par cette raison, le réel des phénomènes doit avoir un degré. Non pas en ce sens qu'il occupe lui-même une partie de l'espace ou du temps, mais par la raison, cependant, que le passage du temps ou de l'espace vide à ce degré n'est possible que dans le temps. Note. La chaleur, la lumière, etc. sont aussi étendues dans un petit espace, quant au degré, que dans un grand. De même, les représentations internes, la douleur, la conscience en général, ne sont pas plus petites, quant au degré, pour durer moins ou davantage. La quantité est donc ici, en un seul point et en un seul instant, aussi grande que dans un espace ou un temps quelconque, même le plus grand. Des degrés sont donc plus grands, non dans l'intuition, mais d'après la simple sensation, ou bien encore suivant l'étendue du degré. Ils ne peuvent s'estimer comme grandeur que par le rapport de 1 à 0, c'est-à-dire par ce que chacun d'eux peut décroître dans un certain temps jusqu'à disparaître, décroître de zéro par une infinité de moments jusqu'à une sensation déterminée. Fin de la note. Reprise du texte. D'où il suit que la sensation, tout en n'étant jamais connue a priori comme qualité de l'intuition empirique, en quoi elle se distingue spécifiquement des autres sensations, peut néanmoins être distinguée intensivement dans une expérience possible en général comme quantité de la perception d'avec tout autre de même espèce. Ce qui rend possible et détermine, par-dessus tout, l'application de la mathématique à la nature par rapport à l'intuition sensible qui nous la donne. Mais le lecteur doit surtout faire attention à la preuve des principes qui portent le nom d'analogie de l'expérience. Car cette preuve, ne concernant pas la production des intuitions, comme les principes de l'application de la mathématique à la physique en général, mais la liaison de leur existence en une expérience, et cette expérience ne pouvant être que la détermination de l'existence dans le temps d'après des lois nécessaires sous lesquelles seules elle vaut objectivement. Par conséquent, est une expérience. Cette preuve, disons-nous, n'a pas pour but l'unité synthétique dans la liaison des choses en soi, mais celle des perceptions, et même des perceptions considérées non par rapport à la matière, mais par rapport à leur détermination dans le temps et à la relation de l'existence dans cette détermination suivant des lois universelles. Ces lois universelles contiennent donc la nécessité de la détermination de l'existence dans le temps en général, par conséquent suivant une règle de l'entendement a priori. Si la détermination empirique doit être d'une valeur objective dans le temps relatif, c'est-à-dire une expérience. Ce que je dirai de plus ici, dans des prolégomènes, n'aura d'autre but que de recommander au lecteur, assujetti par une longue habitude, de regarder une expérience comme un simple assemblage empirique de perceptions, et comme il ne pense pas que cet assemblage va bien plus loin que les perceptions, c'est-à-dire qu'elle donne aux jugements empiriques l'universalité, mais qu'elle a besoin pour cela d'une unité intellectuelle pure qui précède a priori. De bien faire attention à ce qui distingue l'expérience d'un simple agrégat et de juger la preuve de ce point de vue. Chapitre 28. C'est ici le lieu de saper le doute de Hume par sa base. Il affirmait avec droit que nous ne voyons d'aucune manière par la raison la possibilité de la causalité, c'est-à-dire du rapport de l'existence d'une chose à l'existence de quelque autre chose qui est posée par celle-là nécessairement. J'ajoute en outre que nous y voyons aussi peu la notion de subsistance, c'est-à-dire de la nécessité qu'un sujet qui ne puisse plus être lui-même un prédicat de quelque autre chose, serve de fondement à l'existence, que nous ne pouvons nous-mêmes nous faire une notion de la possibilité d'une pareille chose, quoique nous puissions assigner dans l'expérience des exemples de son usage. Que cette incompréhensibilité concerne aussi le commerce des choses entre elles, puisqu'on ne voit pas comment de l'état d'une chose peut être conclu l'état de choses tout autre, en dehors d'elle, et de même, à l'inverse, ni comment des substances, dont chacune a son existence propre et séparée, doivent dépendre les unes des autres, et même nécessairement. Je suis néanmoins très éloigné de regarder ces notions comme un simple produit de l'expérience et la nécessité qui s'y attache comme une fiction et comme une simple apparence qui résulterait en nous d'une longue habitude. J'ai plutôt prouvé suffisamment qu'elles sont, ainsi que les principes qui en proviennent a priori, antérieurs à toute expérience et qu'elles ont une valeur objective incontestable, mais uniquement par rapport à l'expérience. Chapitre 29. Quoique je n'ai pas la moindre notion d'une pareille liaison des choses en elles-mêmes, de la manière dont elles existent comme substance, ou dont elles agissent comme cause, ou dont elles peuvent être en commerce avec d'autres, comme partie d'un tout réel, et que je puisse encore moins concevoir de semblables propriétés dans des phénomènes, comme phénomènes, parce que ces notions ne renferment rien qui soit dans les phénomènes, mais quelque chose que l'entendement seul doit penser. Nous savons néanmoins de cette liaison des représentations dans notre entendement, et même dans les jugements en général. Cette notion, à savoir que des représentations dans une espèce de jugement, appartiennent à l'état de rapport comme sujet à des prédicats, dans une autre espèce comme principe à une conséquence, et dans une troisième comme partie qui constitue dans leur ensemble une connaissance totale possible. Nous savons en outre, a priori, que sans considérer comme déterminée la représentation d'un objet par rapport à l'un ou à l'autre de ces moments, nous ne pouvons avoir aucune connaissance valable pour un objet, et que si nous nous occupions de l'objet en soi, il n'y aurait pas de signe possible auquel on pût reconnaître qu'il est déterminé par rapport à l'un ou à l'autre de ces moments, c'est-à-dire qu'il appartient ou à la notion de substance, ou à celle de cause, ou, dans le rapport entre des substances, à celle de commerce, car je n'ai aucune notion de la possibilité d'une telle liaison de l'existence. Aussi la question n'est-elle pas de savoir comment des choses en soi sont déterminées, mais comment l'est une connaissance expérimentale des choses par rapport à ces moments des jugements en général, c'est-à-dire comment des choses, en tant qu'objet de l'expérience, peuvent et doivent être subsumées à ces notions intellectuelles. Il est clair alors que je ne vois pas bien non seulement la possibilité, mais aussi la nécessité de subsumer tous les phénomènes à ces notions, c'est-à-dire de les faire servir de principe pour la possibilité de l'expérience. Chapitre 30. Pour expérimenter la notion problématique de Hume, la notion de cause, la forme d'un jugement conditionnel en général, c'est-à-dire une connaissance donnée comme principe et une autre à employer comme conséquence, mais d'abord donnée a priori par la logique. Mais il est possible qu'il se rencontre dans la perception une règle de l'entendement qui dise alors qu'après un certain phénomène en vient constamment un autre, quoique pas réciproquement, et que c'est ici le cas de me servir du jugement hypothétique et de dire, par exemple, que si un corps est éclairé assez longtemps par le soleil, il s'échauffe. Il n'y a sans doute pas encore ici une nécessité de la liaison, par conséquent, pas notion de la cause. Mais si je continue et que je dise, si la proposition précédente, qui est une liaison purement subjective des perceptions, doit être une proposition expérimentale, il faut qu'elle soit regardée comme nécessaire et universellement valable. Or, une pareille proposition serait celle-ci. Le soleil est, par sa lumière, la cause de la chaleur. La règle empirique précédente est maintenant regardée comme une loi et valable, à la vérité, non plus à l'égard des simples phénomènes, mais bien à l'égard des phénomènes au profit d'une expérience possible, qui a toujours et par conséquent nécessairement besoin de règles sûres. Je vois donc bien la notion de cause comme une notion qui appartient nécessairement à la simple forme de l'expérience, et sa possibilité comme celle d'une liaison synthétique en une conscience en général. Mais je n'aperçois pas la possibilité d'une chose en général comme cause, et cela par la raison que la notion de cause n'indique absolument aucune condition qui tienne aux choses, mais seulement à l'expérience, à savoir que cette connaissance ne vaut objectivement que des phénomènes et ne peut être que leur succession, en ce sens que celui qui précède peut être rattaché à celui qui suit, conformément à la règle des jugements hypothétiques. Chapitre 31. Les notions intellectuelles pures n'ont donc absolument aucune signification si elles désertent les objets de l'expérience et veulent être rapportées aux choses en soi. Elles ne servent, pour ainsi dire, qu'à épeler des phénomènes afin de pouvoir les lire comme expérience. les principes qui résultent de leur rapport au monde sensible ne servent à l'entendement humain que pour l'usage expérimental. Vouloir en faire un autre usage, c'est former des liaisons arbitraires, sans réalité objective, dont on ne peut ni connaître a priori la possibilité, ni confirmer le rapport à des objets, ou seulement le rendre par quelque exemple, parce que tous les exemples ne peuvent être empruntés que de quelque expérience possible, et qu'ainsi les objets de ces notions ne peuvent se rencontrer que dans une expérience possible. Cette entière solution du problème de Hume, quoiqu'elle ait une autre issue différente de celle qu'attendait l'auteur, conserve donc aux notions intellectuelles pures leur origine a priori, et aux lois universelles de la nature leur valeur comme loi de l'entendement. Et cela en ce sens qu'elle en restreint l'usage à l'expérience, parce que leur possibilité n'a son fondement que dans le rapport de l'entendement à l'expérience, et non en cet autre sens qu'elle les dérive de l'expérience, mais bien que l'expérience dérive d'elle, mode de liaison tout opposé à celui que Hume concevait, et qui ne lui vint jamais dans l'esprit. Les recherches précédentes aboutissent donc à ce résultat. Tous les principes synthétiques a priori ne sont que des principes de l'expérience possible et ne peuvent jamais être rapportés à des choses en soi, mais uniquement à des phénomènes comme objets de l'expérience. Les mathématiques pures, ainsi que la physique pure, ne peuvent donc jamais s'appliquer qu'à de simples phénomènes et ne nous représentent que ce qui rend possible soit une expérience en général, soit ce qui doit toujours pouvoir être représenté dans toute expérience possible, puisqu'il dérive de ces principes. Chapitre 32. Ainsi donc, on a enfin quelque chose de déterminé et à quoi l'on peut s'attacher dans toutes les recherches métaphysiques qui ont été faites jusqu'ici assez témérairement, mais toujours aveuglément, sur toute chose sans distinction. Les penseurs dogmatiques n'ont jamais fait attention que le but de leurs efforts devait être fixé aussi près d'eux, ni ceux-là même qui, fiers de leur soi-disant saine raison, n'avaient pas pour but d'arriver, par des notions légitimes et naturelles, il est vrai, mais destiné à un usage purement empirique, et par des principes de la raison pure, à des connaissances dont ils ne connaissaient ni ne pouvaient connaître les limites déterminées, parce qu'ils n'avaient pas réfléchi, ou ne pouvaient pas réfléchir, sur la nature et même sur la possibilité d'un pareil entendement pur. Plusieurs naturalistes de la raison pure, j'entends par là ceux qui croient pouvoir se prononcer sans aucune science des choses métaphysiques, ont pu prétendre qu'ils avaient déjà, et depuis longtemps, grâce à l'esprit de divination de leur saine raison, non seulement pressenti, mais aussi su et vu ce qui a été exposé ici, avec tant de formalité, ou, s'ils aiment mieux, avec tant de détails et d'appareils pédantesques. À savoir que nous ne pouvons jamais, avec toute notre raison, sortir du champ de l'expérience. Mais si, quand on les interroge discrètement sur leurs principes rationnels, ils sont forcés d'avouer qu'il y en a plusieurs qu'ils n'ont pas tirés de l'expérience, qui ont par conséquent une valeur indépendante de l'expérience et a priori, comment et par quelle raison veulent-ils donc renfermer les dogmatiques ainsi qu'eux-mêmes dans ces limites, eux qui font usage de ces notions et de ces principes en dehors de toute expérience possible, si ce n'est par cela même qu'ils les connaissent indépendamment de l'expérience? Et même cet adepte de la saine raison n'est pas bien sûre, malgré toute sa prétendue sagesse, acquise à si bon marché, de ne point passer à son insu du champ de l'expérience dans celui des chimères. Aussi y est-il d'ordinaire profondément engagé. Quoique, par un langage populaire, il donne une certaine couleur à ses vaines assertions. Puisque tout n'est pour lui que simple vraisemblance, conjectures rationnelles ou analogies. Chapitre 33. Déjà, dès les temps les plus reculés de la philosophie, des scrutateurs de la raison pure avaient conçu, en dehors des êtres sensibles ou des phénomènes qui constituent le monde sensible, des êtres intelligibles particuliers qui doivent composer un monde intelligible. Et comme ils tenaient le phénomène et l'apparence pour identiques, ce qui était bien pardonnable à un âge encore grossier, ils n'accordèrent de réalité qu'aux êtres intelligibles. Dans le fait, si nous considérons les objets des sens, ce qui est permis, comme de simples phénomènes, nous reconnaissons par là toutefois qu'une chose en soi leur sert de fondement, quoique nous ne sachions pas ce qu'elle est, mais que nous n'en connaissions que le phénomène, c'est-à-dire la manière dont nos sens sont affectés par ce quelque chose d'inconnu. L'entendement, donc, par cela qu'il admet des phénomènes, reconnaît également l'existence de choses en soi, et à ce titre, on peut dire que la représentation d'êtres, qui sont la base des phénomènes, d'êtres purement intellectuels par conséquent, est non seulement légitime, mais encore inévitable. Notre déduction critique n'exclut point de pareilles choses, mais elle restreint plutôt les principes de l'esthétique à ce point, de ne pas s'étendre à tout, ce qui convertirait toute chose en simple phénomène, mais de n'avoir de valeur légitime que pour des objets d'une expérience possible. Les êtres intelligibles sont donc reconnus, mais avec la restriction expresse, et qui ne souffre pas d'exception, que nous ne savons absolument rien de positif de ces êtres intelligibles purs, que nous n'en pouvons rien savoir, parce que nos concepts intellectuels purs, ainsi que nos intuitions pures, ne se rapportent qu'aux objets de l'expérience possible, aux seuls êtres sensibles par conséquent, et qu'aussitôt qu'on en sort, ces notions n'ont plus la moindre valeur. Chapitre 34. Il y a quelque chose de captieux dans nos notions intellectuelles pures en ce qui regarde le penchant à un usage transcendantal, car j'appelle ainsi celui qui dépasse toute expérience possible, de ce que nos notions de substance, de force, d'action, de réalité, etc., sont tout à fait indépendantes de l'expérience et qu'elles ne contiennent absolument aucun phénomène des sens, elle semble, par le fait, se rapporter aux choses en soi. Et ce qui confirme encore cette conjecture, c'est qu'elles contiennent une nécessité de la détermination en soi, que l'expérience n'égale jamais. La notion de cause renferme une règle suivant laquelle d'un état donné en suit nécessairement un autre. Mais l'expérience peut seulement nous apprendre que, souvent, et tout au plus, un état des choses en suit ordinairement un autre, et ne peut par conséquent donner ni généralité stricte, ni nécessité, etc. Les notions intellectuelles semblent donc avoir beaucoup trop de signification et de matière pour que le simple usage expérimental en épuise l'entière détermination, et l'entendement se construit ainsi, peu à peu, à côté de l'édifice de l'expérience, une habitation beaucoup plus vaste qui le remplit d'être purement intelligible, sans même s'apercevoir qu'avec ses notions, d'ailleurs légitimes, il a dépassé les bornes de leur usage.